La chaîne 3, en partenariat avec Algérie Télécom, vous propose Nostarchive. Algérie Télécom, le bon choix.
Madame, monsieur, bonsoir, merci d'écouter Alger Chaîne 3, c'est notre archive qui prend le relais et nous sommes avec vous jusqu'à 22h. Ce soir, nous lèverons le voile sur le parcours d'un artiste assez spécial, précurseur dans beaucoup de domaines, j'ai nommé Cheikh Hamada. Cheikh Hamada est un des illustres représentants du Bédouin, mais aussi considéré par quelques-uns comme le père du Raï. Son œuvre est méritoire à plus d'un titre, surtout pour avoir fait le rapprochement entre la musique de la campagne et celle de la ville. Restez avec nous, c'est Nostarchive avec vous jusqu'à 22h.
والفرجة في باب الجيادة ثم لقيتني يا ولاة الوسمة عيد كبيرة والفرجة في باب الجيادة ذي الذكني تتغلط بالهمة شيقة يبضيني الوردة في ديال العقادة وشيجيني تدي الوحك العظمى ما ريت فيني حياتي بالفرجة يا سيادة مدام حياتي في عمري يا بهما يا ولبنات يا الولع مرقومة عن قارنة كساوي ملح نارينا وحرق الذهبان حرق الاسفلن حواجب وشفاف معكرنا والخد فيها جنة يا رب النعمان قصة يا مسقين مق تظهر لك فوق الجبينة والشاشة يا مذينك يسحل دبانة يا من بغيت تفرج في الزين ونعم الزينة يا وسير للضياري في شغلة الإنسان
هذه في خاطرك يا مصر العزيز وفي خاطر اللي تحبه كبير وصغير
يا البهجة الهاجة ليها ما فيها حيادة ربي يبغى يجعلني فيها قسمة شور الدراب سيروا بيا ذوك السمادة حتى يوقعت في بير بلا قيمة العيد كبيرة والفرجة في باب الجيادة يو ثم لقيتني يا ولاة الوشمة عشية وفيطمة وخديجة وزهرة الزهرة والفيقة يعني اللي من صورة تنصارة شافوا البعض هم واتفقوا ذوك النمورة قبض الزهرة فرقوها على الانظار يويل وين العفاطمة بدر البدورة تنيم عينيها وذب الاصفار يهدي قلت ناليها معشوقة راها عاد حرم الشربنة وبسيالة النعمة مملوك ليك يا عين الطير بلا طراد الجود غير جودك يا ذي السقمة العيد الكبيرة والفرجة في باب الجيادة يا وزم منظر سنيها بولاة الوشماء. يا من بغيت تدي حسن وصاف البنات الدحديدين واسمي عملني بالصوت يا ذي ابن يا وتلبه جب مرقول التبات نصف قدرين هم جوهر والياقوت والويل عين عليهم فاطمة منين جات لما نظرتني طعنتني كل موت طاق الدلان الولفي عمري ليها شبات سبت الغزل غياه لال المعود. حبيت غيان علي ولا يعطي حياد جيب الفزوع وابني عندي خيمة دار الراس أكره بنظرة يا سيادة حله باليمينة ما يمرق من سماء العيد الكبيرة والفرجة في باب الجيادة يمزم ميتيه ميولاة الوشباء. يا العيد الكبيرة والفرجة يا معشي قومة لبنتين ما في الحوز والدراب تبعت حيهم بيا الجرة ليلة ويوم هما والوينيل وفيا فرجة والعاب كي غيبني جي حمى عزي مصدقوم.
Jusqu'à la dernière note, Cheikh Hamada avec l'Aïd le Kbir, ce genre de style, un style qui ne passe pas beaucoup sur Alger Chien 3. Nsardine Bardadi, bonsoir.
Bonsoir.
Ça nous replonge dans les grandes poésies d'antan, Nsardine Bardadi.
Oui, là, c'est Hamada. Pourquoi on a passé cette chanson? C'est un Haouzi de Bentouki, l'Aïd le Kbir, ou le Fakjafi Bebeljet, Malkitam ou la Touchement, parce que Hamada a été le premier à introduire ce qu'on a appelé plus tard le Beladi. C'est dans le chant bédouin, parce que le bédouin que fait Hamada est le bédouin orané. Et on appelle surtout le style, dans le style Ghibli, où il n'y a pas de mélodie, de rythme, et dans le style Mokhazni, où il y a le rythme, mélodie. Et Hamada a ajouté des poèmes de poètes citadins, comme Ben Salah, Ben Tiki, Ben Saïb, Khadoul Alami, etc. Et donc, en introduisant ce genre qu'on appelait Beladi. C'est comme ça qu'on a débuté, c'est-à-dire pour marquer le renouveau de la chanson bédouine de Orané, et le renouveau fait par Hamada. Hamada a été un petit peu précurseur avant 100 ans de ce genre, le Beladi, mais également de cette manière de vendre ce produit qui était cantonné dans les campagnes. Et avec Hamada, on l'a vu.
Il était, je crois, le premier à enregistrer.
Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'avec lui, il a compris que l'enregistrement était quelque chose d'essentiel pour diffuser les chansons. Et il a enregistré en France, en Allemagne et à Berlin d'ailleurs.
Et c'est en Allemagne qu'il rencontre
Mohamed Abdelwahab. Oui. Et Haj Mohamed Lanka, il a rencontré effectivement dans un studio d'enregistrement. Il a fait lier connaissance. Ensuite, il s'est lié d'amitié avec lui jusqu'à sa mort.
Et peu de gens connaissent justement l'importance de Cheikh Hamada pour le Sha'bi et les poésies que chantait Haj Mohamed Lanka.
Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre eux. Et moi, l'image m'est restée gravée. J'étais très jeune. C'était peut-être l'année de sa mort. 68,
le 9 avril.
Mais j'avais à peine 11 ans. Mais je me rappelle de cela quand on passait à côté du Tontonville. Il y avait Haj Mohamed Lanka qui était assis. Ensuite, il vint vers lui, Hamada. Lanka se lève pour le saluer. Après, j'ai eu vent par le biais de l'Hadi. Il me disait Hamada venait souvent chez nous. Et même le salon était aménagé. Il faisait Qada Taht avec Mtarah et Hanabel. Et ensuite, des discussions sur les échanges de poésie entre Lanka Et Hamada a eu des déclamations. C'était quelque chose de professionnel. En même temps, ils étaient très liés. Hamada a été reconnu comme maître de ce genre. Et on l'entendant chanter, par exemple dans un mariage, on voit la valeur du bonhomme. Quand il se met à déclamer de tête, il récite des centaines de poésies, de chansons, tous genres confondus. Et là, bien sûr, il a eu le temps de s'aguerrir. Là, on revient déjà en arrière avec sa naissance.
Exactement. On a commencé par le milieu, mais comme toute histoire a un début, le début pour Cheikh Hamada, c'était en 1889, puisque c'était l'année de sa naissance.
Et c'est une année...
Oui, des grands, des géants,
oui, oui.
Dans la culture arabe et même
absolument.
Occidentale. D'ailleurs, on l'appelle chez nous Amel Abaqira.
C'est vrai, oui.
Et il est né du côté de Mostaganem, dans une région qui s'appelle Touahria.
Oui, du côté de Ain Tadlis, Touahria. Et bien sûr, là, le père est paysan. Il est paysan avec son père, c'est-à-dire chez la terre familiale.
Son père, Abdallah Gouaïch.
Oui,
c'est son vrai nom,
Mohamed Gouaïch. Et en même temps, il aime la chasse. D'ailleurs, c'est d'où le surnom Hamada.
D'ailleurs, quand on écoute ces chansons, on imagine justement les plaines de Mostaganem, les parties de chasse, la fantasia.
Oui, c'est vrai. Oui, oui. S'il a réussi à nous transmettre tout cela, ce qu'il a vécu, il sait transmettre. Et bien sûr, là-bas, la chasse, c'était surtout la chasse vers le sud. On utilisait le faucon lanier pour chasser.
Et l'oiseau royal.
Oui, l'oiseau royal. Et puis, une fois, il fut accusé par, bien sûr...
Les colons
de braconnage. Il a dû être un bon chasseur, puisqu'il a dû utiliser le faucon pour chasser, et ça, ça les a dérangés pour les parties de chasse qu'il faisait avec des fusils à l'époque.
Oui.
Des fusils à deux coups, à répétition. Et accusé, donc il fuit son village et il va vers le quartier populaire de Mostaganem, Tijdit. Et bien sûr, c'était un quelque chose de malheureux, bon, parce que c'est là-bas où il y avait des grands chouyours, des grandes tribus qui venaient là-bas. Et surtout parmi eux, Cheikh Belgacem, qui a quand même contribué beaucoup au savoir de Cheikh Hamada.
Les chouyours qui se réunissaient dans un café très très connu.
Oui, oui. Un café très connu. Et c'est là-bas, bien sûr, quand les chouyours se réunissent, c'est pour chacun essayer de s'imposer par rapport à l'autre. Vous lui demandez un poème, tel poème, il vous le récite. Et lui, il fait la même chose. Et puis, c'est comme ça qu'il y a une forme de confrontation poétique. C'est à l'image d'un socade, mais peut-être dans des cafés. Voilà. Et c'est comme ça que Hamada, très vif, très alerte, a appris beaucoup de choses auprès de ses grands-mères.
C'est une des premières qualités de chasseur. Hein?
Oui, absolument. Et là, c'est la chasse à la rime. La chasse à la rime et aux belles lettres, à la belle poésie. Et surtout comme le dit, parce qu'il y avait dans le style raï, il disait raï, par exemple, c'était la poésie qui avait un rôle d'éducation. Raï Sadid, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'il a appris avec le temps d'autres poésies nouvelles, puisque lui-même voyageait beaucoup dans les contrées vers les villes citadines, et pour avoir aussi l'autre poésie, c'était un peu ça sa force par rapport aux autres. Il a rajouté ce bel hadith, et bien entendu, il a su le défendre en enregistrant. Il avait aussi une voix très puissante, très présente. Et ses accentuations aussi, le verbe. Et c'est ça qu'il a fait, qui devint plus tard une référence. une référence parce qu'il détenait une très grande bibliothèque de poésie populaire.
Puisqu'il se déplaçait, justement au Maroc pour amener les poésies les plus rares.
Oui, d'ailleurs, dans des instruments que nous avons, un poème que nous n'avons pas retrouvé, c'est Yerkhadin Asoram, qui est différent des Yerkhadin Asoram qu'on connaît. Nous avons deux ou trois Yerkhadin Asoram qui sont différents de ce qu'ils chantent. On n'a pas retrouvé encore le poème, c'est vrai. Et d'autres. Donc, plusieurs maîtres allaient vers lui, y compris Sadr Bjaoui qui est allé corriger la Ilkbiofajafiobjed avec Hamada. Et d'autres qui venaient chez lui. Mais c'est vrai qu'il détenait les poèmes, mais quand il chantait, dans le style, ce qu'on appelle Beladi, mais il le faisait avec El Gasba et El Galal, des fois il adaptait les mots. Par exemple, dans par exemple, au lieu de dire Fatou, il dit Mago, pour être compris de sa région.
Oui.
Il fait des adaptations.
Des adaptations, mais parfois aussi il y avait des erreurs, puisque Bouhadjadj déjà, qui est un artiste de la région, témoigne que Cheikh Hamada lui corrigeait plusieurs textes qui étaient bourrés de fautes.
Oui, absolument, parce que lui, d'abord il comprenait les sens, il ramenait les textes de leur origine, c'est-à-dire du Maroc par exemple, et il avait quand même des versions qui étaient plus fiables que d'autres. Autre chose, même sur le plan de l'orchestration, il a un peu changé cette manière. Il a enlevé, il y avait une troisième et peut-être quatre flûtes, il n'en a mis que deux, juste Xasbiya, avec une Tareja. Quand on voit à la télé, il y a une belle image de lui. Quand il chante, il joue le Galal, ou le Qallouz, comme ils disent, avec la bague. Parce que la sonorité de la bague, quand il joue avec ses doigts, ensuite il fait la sonorité de la bague, là il y a une autre sonorité qui sort. Et là aussi c'est un peu lui.
Il y a des gens qui se sont inspirés de ce jeu, justement, absolument. Notamment Papou, Laï Rahman.
Oui, dans le Shabi, absolument. Mm. Oui. Et d'autres qui sont venus après.
Oui.
Et effectivement. Et Cheikh Hamada était sollicité partout. J'ai un témoignage de quelqu'un qu'on avait enregistré avec la télévision algérienne. Cheikh Bouhmida Boumdine qui me disait plusieurs fois est allé avec Hamada à Oujda et à Fès. Il était très très sollicité, même au Maroc, en France, en Allemagne bien sûr, et dans toutes les régions d'Algérie. Donc c'était quelqu'un qui avait une grande notoriété, et ma foi, le fait de rendre accessible ce genre bédoui qui était cantonné dans les petites dachas et peut-être chez les nomades, il a fait
citadinisé.
Entrer en ville, il a citadinisé, il a peut-être rafraîchi, on lui a ajouté autre chose, d'autres textes, et bien entendu, en faisant des enregistrements, il a fait connaître partout dans le monde. Et ma foi, aller à Berlin enregistrer et en même temps
dans les années 30, je crois.
En 30, et rencontrer Mohamed Al-Wahab, c'est quelqu'un, c'est-à-dire que Cheikh Hamada était quand même très ambitieux pour son époque. Aller jusqu'à Berlin.
Au moment où on disait que l'Algérie contenait un peuple non civilisé, un peuple d'indigènes, et
absolument.
Lui a prouvé le contraire.
Berlin est à 1000 km de Paris.
C'est ambition. Une grande reconnaissance pour la musique algérienne traditionnelle.
Ah oui. Et à l'époque, dans le musée actuel de Berlin, on en retrouve dans la partie consacrée à l'Algérie des anciennes 78 tours qui ont été enregistrées là-bas. Tétouan aussi enregistré là-bas. Al-Zahabid Dalihia et d'autres. Donc, cette collection est conservée jalousement dans un musée à Berlin. Encore l'Allemagne conserve beaucoup d'archives algériennes, même datant du XVe siècle. Par exemple, c'est pas là-bas où on a découvert dans les microfilms l'Aqida Soura, le Kobra et l'Ousta de Cheikh Ben Youssef Sanoussi Tlemcen. Donc, ils ont conservé. Là, on peut aller même plus loin. Ils ont ce qu'on appelle le Babishtar du temps du sultan Hammurabi. Donc, c'est des gens qui ont. Les Allemands ont acheté beaucoup d'archives à l'époque, les années 1900, avec les pilleurs de l'époque. Donc, ils peuvent se targuer d'avoir des archives de pays musulmans d'une importance inégalable. Pour Hamada, donc, il chantait d'abord dans dans les cafés, et ensuite pour les communautés, pour les mariages. Et il a eu quelques films à la télé, très rares, mais il en a fait quand même. Et tout ça veut dire que c'est le précurseur de ce genre musical du bédouin oranais, avec toute sa nouvelle esthétique. Parce que nous parlons aussi de Cheikh Abdelmoulay Bassi, qui a vécu aussi longtemps, qui a une notoriété, mais qui reste derrière Hamada, qui a quand même fait connaître cette musique, a eu le courage de connaître, parce que d'autres se disent bédoui, et donc c'est une subculture qui est réservée aux bédouins, nomades, donc ce n'est pas une musique de citadin. Et Hamada a prouvé le contraire.
Puisqu'il a eu la reconnaissance donc lors du Festival des musiques méditerranéennes comme le grand représentant de la musique algérienne.
Absolument.
Et c'était en 1938.
En 1938 qui a fait cela. Et ma foi, les gens n'étaient pas nés, ils ne savaient même pas ce que c'était que la musique lorsqu'il a commencé à enregistrer déjà. On dit s'il s'était déplacé à Mostaganem. Les années 20, il a commencé à enregistrer. En 30, il rencontre
Abdelwahab,
qui en 30 déjà, c'était à l'époque de la Rose Blanche déjà.
Oui.
Et qui était sous les feux de la rampe. Et ensuite, il représente la chanson méditerranéenne. Il est sollicité de partout. Il voyage beaucoup. Il enregistre beaucoup. Et il nous laisse plus de 300 chansons. Et cela ne l'a pas empêché quand même aussi d'être un grand nationaliste. Un grand nationaliste lui-même, quand il s'engage lui aussi, et il sacrifie ses deux enfants. L'un laissé au maquis, et l'autre appartenant à la Fédération de France, il a disparu, on n'a jamais retrouvé son corps. Et là, sur le plan émotionnel, il en a pris un coup dans la mesure où sa progéniture, qui est sacrifiée, ça c'est un père, et qui malgré cela, après l'indépendance, reprend le flambeau, pratiquement, il a chanté jusqu'à sa mort. La période qui a séparé sa mort à la chanson, c'était le mois du pèlerinage.
Oui.
Il
en est mort, je crois, juste après son retour.
Juste après son retour, peut-être une semaine ou 10 jours après, et il décéda en 1968.
Sur la route menant vers Mazagran, encore un autre symbole de l'histoire de l'Algérie.
Oui, la fameuse bataille de Mazagran, avec les Espagnols, que relate le Khadak Ben Khalouf, Qasat Mazagran. Et là aussi, on chante beaucoup ce wali, Sidi Bel Qasem, Ben Slimane, le poète Qaddo Ben Slimane d'ailleurs lui a consacré une chanson, Sidi Bel Qasem ou la Mazagran. Là c'est encore, vous savez, ces lieux de culte, ces saints, on ne se sépare jamais des chantres, des poètes, et tout ça est regroupé en même temps, ce qui a donné plus tard des chants mystiques, qu'a chanté aussi Hamada. Il a chanté tout, il a chanté le Mukhazni, il a chanté le Gbli, il a chanté le Baladi, et c'est comme ça.
Et la ville de Mostaganem, justement, est connue pour ses poèmes très riches, chantant les walis de la région et tout ce qui concerne cette partie religieuse de la ville, ce côté spirituel de
d'ailleurs,
la ville de Mostaganem.
D'ailleurs, le Khadak n'a écrit que sur la poésie
spirituelle
et surtout religieuse par rapport au Nabi Salam ou
le chant panégyrique
de divine. Et bien sûr, les saints, le culte des saints, et même les soufis. Il a écrit sur les soufis, « Sallallahu al-Munawwar ghitunay il-lapsin jbeb souf ». À l'époque, les soufis, ça veut dire qu'une soufia, ils mettaient des jlabas en pure laine. C'est-à-dire la manière de se distinguer, de se faire remarquer entre eux. Et donc, effectivement, c'était quand on parle du culte des saints, il n'y a qu'à lire l'ouvrage d'Émile d'Ermengheim, Le culte des saints. Il rapporte ces choses-là, cette partie de l'Algérie qui est Mostaganem et ses environs.
Et les Mostaghan et moi croient dur qu'en faire au pouvoir des saints de la région.
Pourquoi ? Parce qu'il y a l'image, quand on va à Sidi Al-Khadr, le mausolée de Khadr Makhlouf, il y a un palmier qui est écrit en, qui est fait en Mimha, Mimdel.
Oui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Alors, beaucoup, donc, c'est des croyances, bon, comme on dit, c'est la foi. On ne peut pas aller plus loin parce que là, c'est difficile de parler de ce. Dans ce contexte bien précis, il vaut mieux avoir affaire à des spécialistes. Et même des spécialistes, pour qu'ils soient bien compris, il faudrait aussi un public avisé. Quand on parle de tasawuf, c'est une autre
histoire. Tout à fait, tout à fait.
يا انا قلبي هنا راس من التركه سرعني انا ويتي سيدي سرعني انا ويتي من مول ابصار نرضى لام بزين تالي تنحني الغزالي زين تلخشم علم الاوكار من راهي دارقم على شوفت عيني يا راهي هني وانا مضرار في قبايا الشيخ لبدا سجني يقهي يا راهي هني وانا مضرار في قبايا الشيخ لبدا سجني معرس مكتوب كل ليلة ونهار خدم الكل النم يا سراهي متهني حشمتك بالله مولانا الجبار وقيل يا شيخ تتحاشم مني يا حشمتك بالله وهربت دير معايا كي تنجم اجعل تسهيل في كتبي كل لا كراس يا زم يا العام الجاي يا عذابي راني طانع زعم نختم قادر علام الغيوبي يحفظني والرمح سلم يا توحشت لي وناسي بعدوني يا من الجبلة ما جنك حتى خطة ولا بصح يا مسافر برني من الجبلة ما جنك حتى خطة ولا بالظهرة مسافر برني في مزون غريب وانا يا عشر انهارات العيد راهم فاتوني يا الايام اللي فيهم وزالي تخطى دنيا متوالية الاحباب تعاني كل حبيبي عيد الحبيب وما صار انا مجلوب من حبابي بعدوني من الجبلة ما يجو حتى خطة وانا فالظهرة سافر ضرني في مزون غريب وانا يا عشر مالي والي صديق حبي ونسني حشمتك بالله مولانا الجبار سرحني يا نعمتي سيدي هني لو سرحني يا شيخ نوضع لجهاز في بليل عواليك ودام عيدة في المنزل نرقي الهلام
هاك وجاي بعيدة المجنة رجل هلي عين الصرق جد كودا وغزالي زين في الدلال جد وحشت لي وناسي بعدوني وطني مذكور في العيال الضدوية عدوهم ما يروحشي منهم هني راني مرغوب في هواهم يا حضار بخبرهم من عيد لك يا تنحاني يا وراشا ليا غرامهم مقدات النار غير مالق لي يصبر عطشتاني انا قلبي هنا ضعت من التذكره سلحني يا نويتي سيدي هنيه
Cheikh Hamada, toujours avec Rahel Salef Badara. Alors, peut-être un petit commentaire, Nsardine Badadi, par rapport à cette chanson.
Badara est un prénom très usité d'abord dans cette région de l'Ouest en général. D'ailleurs, un poème...
C'est pas Mustafa Ben Brahim, non ?
Là, oui. Mais il y avait aussi, Salef Badara, un poème qui a sauvé la vie de Ben Sahla. لو ما الفضولي عجبي وشتني حتى لقيتك حسر برا لو ما نخافنا عشر ربي بلشاني حتى لقيتك حسر جنة الخضراء سابوم كافي سوفي بن سهلا بيش كابخي زوايا كي ضيادو عياني اللي تي بارتي شاك كارتي سيتي لنو دي جون في سيتي كم سا مي لبي دوران لنا با كمبري تسات مانيار il le fit convoquer et le mit au cachot. Badra était la fille du bey d'Oran et lui, il composa ce poème en montrant que son amour était plutôt Udrit, courtois. On a failli dire Ken l'Oran fait dunya yahshara, mais Ken Chris l'Awel ou Thani, Ken l'Oran fait Umra Zulumra, Chris bin Udurih, Leila, Chris bin Mulouah, Chris l'Ubna, Ken l'Oran fait Umra Zulumra. Donc ça fait là. Et c'est là où on a compris qu'il fallait le libérer. Enfin, je ne sais pas si c'est une ruse qu'il avait utilisée, mais en tout cas, Badra lui a sauvé la vie. Et bien sûr, c'est un prénom qui est resté très usité. Et ce poème de Mustafa Brahim, qui est repris par Hamada, qui a fait beaucoup dans le Mustafa Brahim. Et c'est grâce à Hamada que certaines chansons du Bédoui ont été transférées vers des mélodies haouzi et chantées. Comme Fiwaran Sekner Ozaï, comme chanté par Abdikim Dali, Gizane Khoudat, comme Yom Jumari Tarub, Tradim Daraf Tsuwaha, le poème de Belkhir Yemgoum Richet. Donc, il a joué ce rôle aussi, et il a fait connaître cette poésie bédouine aux citadins. Et la poésie citadine aux bédouins. C'est cet échange, il a véhiculé donc, ces deux. Tout un pôle, finalement, il a fait le rôle de fédérateur en faisant connaître le bédoui aux citadins et la poésie citadine aux bédouins. Tout ça en interprétant, il a bien interprété, qui a permis d'y accéder, ce qui a permis aussi aux gens de s'intéresser à Hamada parce qu'il a enregistré tout ça dans des disques, plus de 300 disques. Et ma foi, quand il enregistre ça, il y a le système de marketing qu'il a fait, puisque à l'époque, on vendait par souscription, on faisait de la... on disait pas publicité, on disait de la réclame. Il y avait des petits livrets qui sortaient avec les disques, où on faisait la réclame, la publicité du produit, et les ventes par souscription... C'est comme ça qu'on est arrivé à écouler les produits. Je vous donne un petit exemple. Je reviens toujours à Belhamida Boumdien, lui aussi grand chanteur de Bédoui, qui habite Blabès, qui me disait, en 1960, j'ai enregistré en même temps qu'Abdikim Dali chez une maison de disques X, à Paris. Il m'a dit, pour l'enregistrement de l'époque, en 60, on m'a donné 300 000 anciens francs. se sont convertis maintenant, c'est des millions. C'est-à-dire qu'on donnait de l'importance à la chanson bédouine de l'époque et on lui consacrait tout le temps pour enregistrer, on payait les frais et on donnait à l'artiste ce qu'il méritait. Donc c'était quand même une grande considération.
C'était une autre
époque. Il y avait un circuit aussi organisé. Et là, à mon avis, quelqu'un qui a organisé le circuit, ça c'est Hamada. Hamada qui a déjà instauré ce système d'enregistrement. Il partait dans des festivals internationaux, représentait l'Algérie. Donc c'était quelqu'un qui connaissait le système d'organisation, qui détenait un trésor, en l'occurrence la poésie, un savoir et un savoir-faire. Et Hamada a instauré ce style dans le Bédoui. De l'autre côté de l'est du pays, il y avait quelqu'un d'autre qui avait émergé grâce aussi à des amis. Il s'agit de Jarmoni, dans le style recroqué, qui est différent. Le style recroqué est différent, la poésie est différente. Et dans l'interprétation, par exemple avec Hamada, il accentue sur le verbe, il précise. Avec Jarmoni, c'est la mélodie qui est mise en valeur et non pas les paroles. Les paroles sont reléguées vraiment au second plan, n'ont pas beaucoup d'importance. Il y a ce qu'on appelle une noun dans le recroqué, qui revient, le noun qui revient, qui fait partie de la mélodie. Mais les paroles n'ont peu d'importance, sauf quelques mots comme ça clés et qui reviennent. Tandis qu'avec le Mokhazni ou le Ghibli et le Baladi, c'est toute une structure poétique. La différence est de taille. Également, Jarmoni a fait beaucoup de marketing pour son époque. Il a chanté à l'Olympia. Il avait comme conseiller aussi un grand chanteur israélite, Haroun Beidi, qui l'accompagnait toujours pour traduire. Il a beaucoup aidé aussi dans son œuvre. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce style. Il y a d'autres styles aussi, qu'on appelle Serouji. Il y a le style
Sarawi,
le Babouri, par rapport à la région des Babours. Et là, la différence aussi par l'utilisation des instruments. La gusba n'est pas la même. La gusba utilise le sidassi, le citrou, qui est différent de la gusba. Et au lieu du kallouz, on utilise le bendir. Donc il y a quand même des différences aussi dans le rythme. On peut plus tard peut-être faire une étude comparée avec des détails sur les styles de musique qui soient dans le Mokhazni, Ghibli, Baladi, avec Srouji, Sraoui, Babouri, Rekroki. On peut faire cette distinction, en diffusant chaque morceau qui correspond au genre que l'on cite et qu'on développe avec détail. On peut le faire, c'est réalisable. Là, pour ce que donne une petite idée seulement sur les différents genres du bédoui.
Très bien. Alors, Cheikh Hamada, un grand artiste qui a fait le renouveau de la chanson bédoui, qui a créé un nouveau style, qui a établi le pont entre la musique de la ville et la musique de la campagne, mais aussi, on l'appelle le père du raï. Qu'en est-il de cette information? Est-elle fondée ou pas?
Je ne sais pas ce qui est fondé parce que je croyais que il y a 15 jours. Et toujours en parlant de ce bonhomme qui m'a beaucoup impressionné, Hamid Aboumdine, qui me disait non, Raï est né à Saïda. Alors qu'on.
Il dit ce qu'on appelle le Raï bédouin.
Oui, dans le sens de Raï. Lui, il considère que ce terme Raï veut dire Araï, comme on faisait. De dire Yel-Hélène dans l'Andalou, ou Yalil ou Aman, on faisait Araï comme une appoggiature pour compléter la mélodie.
Il y a aussi une autre phrase qui revient tout le temps dans les chansons Raï, le Raï moderne, c'est Nabhar Ali Ontiyala, et ça devient vraiment une appoggiature pour cette musique.
Oui, non, c'est-à-dire dans le fond, c'est-à-dire il parle de terme Raï comme forme et pas comme sens. Pour le sens aussi, on peut aussi dire, par exemple, pour les chansons à texte, il disait raï, c'est-à-dire j'écoute le bon sens, la bonne parole. C'est dans ce sens, mm-hmm. en parlant de Hamada. Pas au sens de raï, qui est devenu un genre musical à part entière.
Mm-hmm.
C'est ça la différence.
Le raï que l'on connaît aujourd'hui.
Oui.
Jamal Khalfawi le dit dans ses entretiens, les entretiens qu'il accorde aux journalistes, que justement Hamada est le père du raï. Jamal Khalfawi, qui a réalisé en 2003, je crois, un film historique sur la naissance du raï.
C'est ça. Oui, mais j'ai expliqué que le terme raï voulait dire la bonne parole, le bon sens. C'est ça, que l'antique raï, si vous voulez. C'est ça.
Mais est-ce que Jamal Khalfawi pensait à cette explication du raï ou à
je
une autre?
Je ne sais pas, mais ce que nous disons, on semble convaincu que c'est cela. Mais raï, plus tard, a pris comme on dit Shaabi. Shaabi comme genre musical, et on peut dire Shaabi, ça veut dire toute la composante de la poésie populaire, dans toutes ses variantes. Et, c'est-à-dire, il a pris un autre sens. Il y a le sens sur le plan étymologique et le sens qui soit technique ou connoté. Là, on en fait après ce qu'on veut. Voilà la réponse qu'on donne.
Nasreddin Bardadi, l'autre mérite de Cheikh Hamada, c'est qu'il a ressuscité, il a fait renaître de grands poètes qui ont été parfois oubliés. Lui, au contraire, il a chanté toute leur poésie, des poésies qu'il a ramenées du Maroc.
Oui, d'une part, il a fait connaître la poésie qu'il a ramenée du Maroc, des grands chouyours du Melhoun, le Mouraouir, Doul Alami, la liste est longue.
Et il en a fait, bien sûr, bénéficier d'autres artistes.
Absolument. Il était très prolifique et beaucoup d'artistes ont bénéficié, qu'ils soient du domaine du Shaabi ou du Bédoui.
Mm-hmm.
Autre chose, même le fait de chanter les chanteurs, les poètes de Bédoui, comme Ben Guennoun, comme
Ben
Brahim, Belkhir, Belharat, Bessouiket, Yusuf Ben Abbas, etc. Tout ça est important. Et ce qui a fait faire à l'époque penser au Qadi, Mohamed Qadi, qui était à Tiret, qui a édité un ouvrage contenant cette poésie bédouine que chantait Hamada. Il a consigné dans un ouvrage en 1930 appelé Kenz al-Maknoun, Fichier al-Melhoun.
Il y a aussi un autre ouvrage, un petit recueil de poésie édité en 1934 par Bakhoucha. Mm-hmm. Et il détenait quelques poésies chantées. C'était en 1934.
Il a édité le Hubou Mahbou, première version.
Un petit recueil.
Et ensuite, un autre recueil en 1936 à Tétouan, lui et Sakhal, les printanières, Roubaïyat. Il a réédité le Hubou Mahbou 37, une autre version. Et cette version a été rééditée en 2006 par Abdelzar Chalouk. Il n'a fait qu'ajouter des images, il n'a pas corrigé les fautes. Il a aussi le Hum Mahboub traduit, je ne sais pas pourquoi, au poème érotique. Alors ça n'a rien à voir avec l'érotisme. Là aussi, ouvrages qui ont paru à l'époque. Et comment on faisait ces ouvrages? Par exemple, pour les printanières, Bokhocha et Sakhal, ils ont pris un chanteur moulésiani qui leur a récité tout ce qu'ils savaient. Ils ont consigné ça, ils ont écrit ces poésies. Dans le Habboul Mahboub, le 15 Mknoun, Hamada a participé pour donner des informations et pour donner une certaine poésie et des annotations qu'on ne connaissait pas. Donc, effectivement, avec la participation de ces chouyours, qu'on a commencé à éditer.
Je ne devrais pas poser cette question, parce que j'imagine un petit peu la réponse, mais quand même, je la pose. Est-ce qu'on peut trouver ces ouvrages en circulation de Sardine Bordadi?
Mahboub, oui, il a été réédité. Kézou Mknoun, non. Moi, je l'ai. Et on demande à ce qu'il soit réédité. Je crois que c'est la meilleure manière de le laisser à la disposition des gens.
Ouais. Des ouvrages de grande valeur.
Oui, des ouvrages intéressants. C'est vrai qu'on a édité des Dawawin, par exemple, de Bentéki, Bimsela, Bimsaïb, Bimsambrahim, Doumna Achour, même s'ils sont bourrés de fautes, ils ont le mérite d'exister.
Heureusement qu'il y a des connaisseurs qui pourraient corriger.
Ces ouvrages devaient être accessibles à tout le monde. Et comme ça, les gens goûteront à la source ce qui se fait dans le Bédoui surtout, qui est mal connu par rapport au Haouzi ou à l'Andalou, qui dans les poèmes sont beaucoup plus à la portée des autres.
Bien, Sardine Bardadi, nous menons une bataille contre le temps, pas seulement contre l'oubli. Alors, il nous reste juste un petit peu de temps et on devra dire que l'émission d'aujourd'hui est un clin d'œil pour la musique bedoui. Qu'en est-il du bedoui aujourd'hui ?
Pour le bedoui, moi, je suis rassuré. Vous savez pourquoi ? Les véritables chœurs de bedoui, on n'en a pas beaucoup, mais quand il y en a, c'est des véritables chœurs. J'ai parlé tout à l'heure de quelqu'un, Boumdine.
Qui est toujours en vie ?
Oui, il a 76 ans, il ne fait pas en plus. Et c'est quelqu'un que je n'ai pas vu il y a plus de 30 ans, qui n'avait pas changé, d'un iota. Et vous savez que les poèmes, les poésies qu'il connaît par cœur, c'est des centaines, c'est des centaines. Je lui avais même demandé un poème que je n'ai pas réussi à retrouver.
J'espère qu'il est à l'écoute.
Et il m'a dit, si, je l'ai, je te l'offre, à condition que tu me donnes le kawi avec l'enregistrement d'Abdin Dali. Je lui ai dit, ça, c'est OK. Et bien entendu, c'est des gens férus qui apprennent, qui sont eux-mêmes poètes, et quand ils sont poètes, dans la tradition. Et ils connaissent tout ça par cœur, ils peuvent vous dire, tel poème a été écrit par un tel, telle date,
et
voilà
le contexte.
Pourquoi.
Mm-hmm.
Le contexte. Et c'est pour ça qu'ils ont conservé. Moi, je n'ai pas peur de ce bedoui, mais il faut un effort pour aller enregistrer ces gens-là, enregistrer tout leur patrimoine, et puis l'écrire aussi. Et voilà la partie qui reste à faire. Sinon, il n'y a pas vraiment à craindre pour ce genre qui restera, à mon avis. C'est un genre quand même très intéressant. Moi, j'aime beaucoup écouter Hamada, Abdel Moula et Aïn Tadlès.
Aïn Tadlès qui était l'élève de Hamada.
Aïn Tadlès, ma foi, avec lui, quand vous discutez avec lui, on lui consacrera une émission, vous discutez avec lui pendant des heures et des heures en poésie, il vous explique. En plus, si vous ne prenez pas l'arabe, il l'explique en français. C'est-à-dire que c'est des gens quand même férus, érudits. Et tout ça, on souhaite que la future génération soit à la hauteur de ce qu'ils ont laissé comme patrimoine immatériel.
Pour rester donc avec Aïn Tadlès, Djilali Aïn Tadlès, qui connaît toute l'histoire et tout le parcours de son maître, Cheikh Hamada, puisque
oui.
Déjà son oncle était l'ami intime de Hamada.
Oui, absolument, c'est son élève. Et il mérite aussi qu'il soit parmi nous dans
Exactement.
Nos archives.
Alors, un dernier point, est-ce que tout le répertoire bedoui a été enregistré ?
Je pense qu'une partie a été enregistrée, ça je suis sûr, parce que je voyais avec Landa, il avait fait un petit travail. Mais là, vous me donnez une idée.
Justement, le ministère de la Culture est en train d'enregistrer des coffrets pour les plus grands artistes algériens. Hamada devrait figurer.
Non, il figure, Hamada.
Il figure.
Mais effectivement, là, il faudrait aussi penser à enregistrer ces gens-là, ces mémoires vivantes qui sont encore en vie, qui peuvent encore donner, qui ont encore la mémoire fraîche. Et ma foi, c'est vrai qu'on verra avec notre ami M. Taoussa, le DG de Landa, afin qu'il se penche sérieusement sur ce problème.
Voilà donc le parcours d'un artiste qui a fait beaucoup pour la musique bedoui.
La musique algérienne, en général.
Pour la musique algérienne, oui, d'ailleurs, qui a eu la reconnaissance des étrangers déjà en 1938. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi ce numéro consacré à Cheikh Hamada décédé le 9 avril 1968. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain avec un nouvel artiste et une autre biographie. Passez une bonne soirée sur Alger Chaîne 3.
نالش التغزال طويا مقحل هاب سلف الحجبي نهزمل فوق العين جبين عاطف مقحل هاب جميل من خزرتها جيت راجف تسقيني شملال بهدو بشفرها سيب شوفتها قتل ما نسلم شالله يلطف نارش التغذيه سيدي مكحلها ما بسلف وناري مكحلها بسلف يا ناري ريت اليوم زهرة تسحل في خطاها تصفى بدر نجوم عربة خضرة في بهاها صافية الخرطوم خرجتني ودريت منها شوفتها مسموم عقلي طار مشي معاها للزهرة ميسوم عبد الله واخدم ليها يا آمين هذاك ذاك داه يتسرب في المال من ليها ما خالف كانت بيحلى ولا تقتلني ساعة ما يهوى لي حال قلبي للدنيا مناي لي عدش حال ربع سنين حسب حالف تايم مالي بار راح الزهو قبيل خرف يا راح شبوبي راح وين ايام الزهو فيت بياض الشيب انصاح في اللحية والران عاتوا حصرة يا بياض الشيب انصاح في اللحية والران عاتوا يوم لا شاف وجال متهني ماشي كلف ما دركوه حوال من لا جلس اش يعرف ما يفرق زنضال ما بات محنا كيف خلي عليه تسال حالي عن جسمي مراهف يخلي عليه تسال حالي عن جسمي مراهف من شوق مدلل الذرة لي تريدف مولا الصولة صاراني من الحكام خايف يا تاج الخودات منين لقيتك طار عقلي راحت الروح اصفات من زينك قوة بالي طول الليل مبات حارم نومي محلالي تمشي العصر هوات قدر اطلع في الليالي ناس الجود فنات وحيانا جتالي دار العشق خلات ويا نحيوها غزالي ياك ما صورت عاد فيك الظهرة اش نوصف كله صافق لال في زينك الفين والف قدرك والكمال من بحرك الزين يغرف حسنك والجمال غير الله عطاك وعطف يا زهرة الأزهور كل جمعوا في خدودك انفتحت الأنوار من كل طبع دم وجهك ما يقدر شكار يوصف كلمة من كلامك كان شكر خرار ما يلحق شطراي بقدمك زينك فازو جار ضي الشمس لا شورك